ne fait pas d'... Bonjour, et donc c'est l'émission qui ne fait pas d'histoire. Et pour cet opus du début de mois, du mois de novembre, on avait envie de vous parler de ce qui s'est passé en coulisses, mais c'était pas vraiment les coulisses de la libération, puisque c'était quand même des moments qui étaient ritualisés et mis en scène. C'était la vengeance qui a été faite sur les femmes qui ont été tondues parce que soupçonnées d'avoir collaboré avec les Allemands.
Nous sommes en 1944. On veut un peu vous contextualiser un peu l'histoire avant de prendre en main ce sujet. Donc on est en 1944. Le débarquement en Normandie a eu lieu en juin 1944. Et le débarquement en Provence en 1944. Paris libéré le 25 août 1944. Ça, c'est pour les dates. Donc en fait, tout ça pour dire que la libération du territoire a pris quand même un peu de temps. Et que ça s'est pas fait, ça s'est plutôt fait dans un temps plus ou moins long. Ce qui a laissé quand même place à une période assez floue. Et dans ce contexte, les comités de départementaux de libération ont vu le jour, ainsi que les commissions d'épuration, ainsi que les commissions d'épuration.
Ouais, donc en fait, bon, encore des dates. Donc, à partir de l'automne 44, commence à s'installer en fait une épuration contre les collabos, plus légale et judiciaire. Le gouvernement provisoire met en place deux ordonnances. Alors, c'est des ordonnances, alors, encore des dates, du 26 août 44 et du 26 décembre 44. Et en fait, qui va mettre en place comment vont être punis les collabos, c'est-à-dire qui définit qui est coupable d'indignité nationale. Donc, c'est-à-dire tout Français qui aura postérieurement au 16 juin 44, soit sciemment apporté en France ou à l'étranger, une aide directe ou indirecte à l'Allemagne ou à ses alliés, soit porté atteinte à l'unité de la nation ou à la liberté des Français ou à l'égalité entre ces derniers. Se mettent en place deux cours de justice, donc ils vont juger les actes qu'ils appellent d'intelligence avec l'ennemi et d'intelligence antinationale. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça a été une période un peu floue, que avant que se mettent en place ces juridictions, il y a eu une vengeance qui a été mise en place contre les gens qui avaient collaboré. Et à partir de 44, c'est censé être géré par des cours de justice. Sauf que ces cours de justice, ça a été réglé à l'échelle, on va dire, préfectorale, régionale. Donc dans chaque région, il y a eu des tribunaux qui ont rendu
des ordonnances.
Des ordonnances.
Et des jugements.
Des jugements, mais qui ont été toutes très différentes.
Oui, donc ces comités de départementaux de libération, ils sont venus combler une sorte de... Enfin, ils sont venus pallier à une sorte de désordre administratif, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas d'État, ou en tout cas un gouvernement provisoire qui était encore à Londres. Et du coup, l'État avait quand même besoin d'avoir la main mise un peu sur ce qui allait se passer. Et les comités départementaux de libération ont constitué en leur sein des commissions d'épuration qui sont, eux, chargés de collecter toutes les dénonciations des gens qui voudraient dire, bon, qui a collaboré, enfin, en gros, d'épuration, quoi, ce qui veut dire ce que ça veut dire, faire table rase, bref. Donc ces comités sont donc chargés de collecter toutes les dénonciations et pour incriminer les collaborateurs avec les nazis. Alors juste, peut-être que la collaboration, c'est quelque chose qui est un mot qu'on utilise encore aujourd'hui pour dire qu'on est en lien plus ou moins avec l'ennemi, quoi. Ou en tout cas qu'on participe à sa présence et à son pouvoir.
Oui, en tout cas qu'on a été vu avec, qu'on les a fréquentés ou eu des rapports plus ou moins directs ou indirects. Et ça, c'est
à chacun de juger.
À chacun de juger, oui.
Et donc ces commissions de d'épuration vont organiser, comme l'a dit ma collègue, vont organiser les arrestations, mais aussi les jugements, les incarcérations, et ils sont aussi chargés d'appliquer les sentences. Et c'est là d'où vient notre sujet de ces fameuses sentences dont l'une a été comme punition vis-à-vis des collaboratrices, pour le coup, de tondre, alors c'est pas de raser la tête des femmes qui ont collaboré.
Et à savoir que elles ont été tondues, ces femmes, parce que on les a accusées d'avoir entretenu des relations plutôt intimes avec les Allemands. Donc intime, c'est très vaste, d'avoir parlé avec eux, d'avoir mangé avec eux, d'avoir accepté des cadeaux qu'ils auraient pu leur faire. Et,
d'avoir travaillé pour eux aussi.
Ouais. Et pour certaines, d'avoir couché avec eux. Sauf que ça n'a jamais été, en tout cas dans les ordonnances qui ont été faites donc en 1944, un délit à proprement dit. C'est-à-dire que ça n'a jamais été, parce qu'en tout cas on a trouvé, réellement écrit. Du coup, ça a été quelque chose qui s'est propagé. Donc, en fait, à partir de 1941, dans des tracts des résistants, déjà, ça commençait à tourner. L'idée que, bon, déjà, tous les collaborateurs allaient, il y allait avoir une vengeance contre eux et qu'ils allaient être punis, et sur les femmes, qu'elles allaient être tondues. Et ce qui s'est donc fait, la tonte des femmes, elle s'est faite entre 1943 et 1946. Et du coup, bien avant ces ordonnances, et même ces ordonnances n'ont jamais vraiment légiféré que ça faisait partie, en tout cas, des raisons pour lesquelles on allait pouvoir les condamner. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de discuter tout au long un peu de l'émission, c'est pourquoi cette punition à l'encontre des femmes, pourquoi les avoir rasées, pourquoi les raser. Et...
Juste que, effectivement, il n'y a pas eu de légifération... à proprement dit sur ces punitions là en tout cas ça n'a pas été écrit condamné à être rasé, mais dans les documents qu'on a trouvé, notamment qu'on peut trouver dans les archives départementales du Puy-de-Dôme par exemple, où on retrouve des documents officiels qui dit que, en l'occurrence, les femmes sont incarcérées et non pas condamnées à être rasées, mais en tout cas ont été rasées. Donc c'est quand même écrit quelque part. C'est pas comme si, on voit les images et tout, mais l'idée c'est quand même de savoir que ça n'a pas forcément été un lynchage populaire et spontané de la population. C'est que c'était quand même, malgré tout, un petit peu organisé ou recensé et su et vu. Par l'État. Et donc ces documents, on peut les retrouver. Ces commissions d'épuration ont recensé ces personnes, ont recensé ces femmes qui ont été rasées. C'est écrit, quoi. Donc ça reste quand même des traces. Et ce qui, quand même, atteste d'un lien, quand même, constant avec les instances, les plus grandes instances de l'État provisoire, et comme on nous l'a dit tout à l'heure, la Haute Cour de justice. Et ici, en fait, aujourd'hui, c'est pas de faire un cours d'histoire, parce que voilà, l'idée, c'est pas du tout de nous re-raconter ce qui s'est passé. Non, en fait, on veut questionner et interroger l'histoire. Et pour ça, on a choisi le thème de la... On a choisi le thème. C'est pas vraiment un thème, mais bon, on a choisi ce qui est arrivé, à savoir aux femmes, de s'être fait raser à la libération. Parce qu'on est parti du principe qu'à cette époque... Quand on appelle épuration à la libération, on ne retient que le lynchage et la vindicte populaire. On ne se dit pas que c'était organisé, parce que les images qui nous restent, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont celles des photos qu'on a, notamment la tondue de Chartres qui a été photographiée par Capa. Où on voit cette femme avec son bébé dans les bras, poursuivie par la foule qui ricane autour, quoi.
Oui, sur les quelques lignes qui sont abordées, en tout cas à l'école, c'est
Déjà, à l'intérieur de ce tout petit traitement, c'est juste ça qui ressort principalement.
Donc voilà, ici, là, maintenant, aujourd'hui, nous voulons questionner cet événement, et en tout cas, comment on nous l'a raconté. Comment on nous l'a raconté. Et comment on le retient, et ce qu'il en reste encore aujourd'hui.
Alors du coup, bah, cette histoire de lynchage collectif, c'était un peu ce qui était dans l'inconscient collectif. Et c'était un peu aussi l'image qu'on avait de ces tontes. Et en fait, en faisant nos recherches, on s'est rendu compte que pas du tout. Il y avait un côté lynchage collectif, parce que évidemment, la population... À la libération, il y avait ce besoin de vengeance. Et donc, du coup, ben, c'est toujours plus facile de s'en prendre au premier venu. Et c'est toujours plus facile de montrer du doigt comme ça. Ben, nous, on n'est pas montré du doigt. Mais donc, il y a cette idée de lynchage collectif. Mais ce lynchage collectif, il est ritualisé. Et justement, sur toutes les photos qui sont visibles sur Internet... Il y a toujours des membres d'une autorité. Il y a toujours des militaires à côté, ou des gendarmes, ou...
Des résistants de FFI.
Du résistant de FFI. Donc on voit bien qu'il y a quand même, même s'il n'y a pas une volonté centralisatrice d'un État qui n'existe pas encore, même s'il n'y a pas donc, du coup, cette volonté-là, il y a quand même un truc... qui est de l'ordre de la justice, d'une autorité judiciaire, d'un État. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et du coup, ça a beaucoup bousculé certaines images que je pouvais m'en faire. En fait, c'est ce que je voulais dire dans cette émission, et ben, c'est pas du tout ce que je vais raconter. Parce que moi, je pensais parler de lynchage populaire et de vindicte populaire, mais en fait, pas du tout. C'est un peu tout autre chose qui s'est passé. C'est un peu complexe, cette histoire-là. Parce qu'aussi, y a un truc aussi que je voulais parler, que j'ai pas parlé, c'est que justement, cette histoire d'épuration, elle s'est faite un peu en deux dimensions. Il y avait un peu la dimension souterraine d'une population qui était donc sous occupation, avec plein de privations et avec... du coup, ce truc-là de dire « on se vengera ». Et une autre dimension de l'épuration qui était préparée quand même à Londres par les résistants et par ceux qui deviendront les libérateurs et donc ceux qui deviendront les futurs gouvernants. Et du coup, ces tontes, elles étaient... Enfin, je veux pas dire... Ce mot, il m'arrache la bouche quand je le dis, c'est tontes. Elles étaient ritualisées. Donc à partir du moment où c'est ritualisé, c'est bien que c'est pas quelque chose qui est spontané. C'est pas la foule qui d'un seul coup pète un câble. Non, il y avait des gens qui à un moment donné prennent du temps pour construire des échafauds, enfin pas des échafauds mais des estrades pour pouvoir mettre en scène le moment où ces femmes-là vont être rasées, puis après pour certaines promenées dans le village avec des croix gammées sur le visage et tout ça. Donc c'est vraiment un moment de ritualisation et ce moment de ritualisation, il sert quelque chose et c'est ça qu'on aimerait bien aussi questionner. C'est que du coup, c'est la libération et il faut reconstruire le pays et du coup, avoir un ennemi à l'intérieur, c'est-à-dire là, ces femmes tondues, ça, de les désigner comme étant les ennemis, ça permet de reconstituer un peu une entité nationale. Et ça a eu aussi cet objectif. Enfin, je ne sais pas si c'est objectif, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc oui. Voilà, un rite qui a une fonction, la fonction de reconstitution d'une espèce d'identité nationale. En se réappropriant le corps des femmes. Et on va passer une petite musique. C'est Brassens qui avait écrit ce texte qui s'appelle La Tondue et qui, à l'époque, avait fait un scandale.
La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tendu le crâne rasibus, le crâne rasibus. Son penchant prononcé pour les ichlibediches, pour les ichlibediches, lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiches. Les braves sans culotte et les bonnets phrygiens et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi, c'est un accroche-cœur, c'est un accroche-cœur.
Alors, du coup, vous êtes toujours sur l'émission d'Histoire qui ne fait pas de l'histoire. Et là, vous venez d'entendre la chanson de Brassens qui a quand même fait un peu scandale parce que cette histoire-là, elle est quand même peu assumée, vraiment peu assumée dans l'inconscient collectif. Et c'est quand même intéressant de voir comment elle s'est transmise à travers le temps.
Alors, pour ça, on a été interrogé des personnes. Quand on a commencé à préparer l'émission, on a discuté autour de nous de savoir un peu ce que ça évoquait chez les gens, cette histoire, de ceux qui étaient plutôt de notre entourage, quoi. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que chez plusieurs d'entre nous, il y avait eu des histoires de femmes qui ont été tendues à la libération. Rasé à la libération, moi non plus j'aime pas ce mot. Et notamment, on a fait deux entretiens, et on va vous passer un premier entretien fait avec Gaël. Alors Gaël, il est prof d'histoire en Seine-Saint-Denis, et dans sa famille, une femme a subi ce qu'ils ont appelé une tonte punitive. C'était en Bretagne, et c'était à la libération, donc en 44. On parle de la troisième génération, puisque c'est Gaël qui parle. Et il nous raconte l'histoire, on sait à peu près ce que c'est. Mais en revanche, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir comment cette histoire lui a été transmise, cette histoire non dite dans sa famille à l'intérieur, parce qu'on ne s'en vantait pas forcément non plus. Et comment les choses qui apparaissent comme un traumatisme... au final, persiste et reste dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient individuel. Et notamment dans l'histoire de chacun et dans sa propre histoire. Les questions qu'on lui a posées, c'était savoir comment ça lui a été raconté, déjà ce qui s'est passé, comment ça lui a été raconté, comment il l'a vécu, et lui, s'il trouve des moyens ou s'il a un moyen de les transmettre, et si oui, bah comment.
Alors c'est la sœur de ma grand-mère, c'est la tante donc de mon père. C'est sur cette génération-là. Moi, j'ai appris cette histoire par ma grand-mère d'une manière un peu lointaine, mais jamais directement avec elle et un peu par mon père. Sinon, on n'en parlait pas beaucoup dans la famille. Elle, son histoire, elle est fille d'immigrés italiens dans le bâtiment, entrepreneur dans le bâtiment, une entreprise de gros œuvres. Donc ses parents sont venus s'installer en Bretagne et ils ont eu deux filles. En Bretagne, c'était à Saint-Ca, dans les Côtes d'Armor, donc ma grand-mère et puis sa sœur. Et sa sœur, qui s'appelait Anita, a rencontré un jeune soldat de la Wehrmacht qui avait décidé de quitter l'armée à la fin de la guerre, de fuir l'armée, de déserter. Il a été fait prisonnier. En voulant rester sur place, il a été mis comme prisonnier, comme garçon de ferme. Bah, cette tante l'a rencontré comme ça, comme garçon de ferme. Elle a eu une histoire avec lui, une histoire d'amour avec lui en 44-45. À la libération, les résistants de 5A ont fait effectivement ces espèces de justice, entre guillemets, expéditive, etc., punitive, comme toutes les femmes qui ont été tendues à la libération en France, pas qu'en France d'ailleurs, dans plein de pays, une espèce de tradition comme ça, rudieuse, qui s'est transmise un peu partout. Donc elle était tendue par des résistants, pas forcément des résistants d'ailleurs, des vrais résistants, pas forcément des résistants de la dernière heure qui voulaient faire une action particulière apparemment, c'était des groupes organisés. Moi, j'ai connu quelques résistants qui ont été dans cette affaire quand j'étais tout petit en Bretagne, quand je passais des vacances en famille là-bas. Donc après, j'ai fait les points, les raccords entre les résistants, entre elles. Je me rappelle de ce résistant qui était gardien de cabine de plage et lui, il avait participé à cette tonte et à cette épuration. Et donc, je l'ai appris. En apprenant que voilà que la tante de mon père était fâchée, donc évidemment elle était fâchée, elle mettait plus les pieds du tout à 5A, et il y a un certain nombre de types qu'elle connaissait, qu'elle avait dans le collimateur, mais que mes parents, eux, ayant sauté le cap de cette époque-là, connaissaient quoi. Quand on retournait en vacances, on voyait les vieux de 5A, voilà, effectivement, comme ce mec-là, quoi. Voilà. Il y a aussi le fait de ses origines italiennes, est-ce que ça n'a pas joué aussi? Et effectivement, l'intégration donc, de mon arrière-grand-père, donc du père de cette tante, lui aussi, à ces moments-là, donc il a été... Il a été frappé, il a été attaqué par des gens de 5A. Le fait d'être en plus italien dans le contexte, ça rajoutait encore aux inimitiés et au peu d'accueil. Avec cet Allemand, Gérard, ils sont partis se marier en Normandie, en fuyant la Bretagne en quelque sorte. Et puis après, lui, il a travaillé sur Paris. Ils sont revenus s'installer dans un village juste au-dessus de 5A, à Matignon, où ils ont fini leur jour tous les deux, toujours ensemble. Des souvenirs très lointains et peu de paroles, peu de discussions. Ma grand-mère est morte il y a longtemps. Je n'ai pas l'occasion de lui reparler de ça. On regrette souvent de pas reposer d'autres questions. Ça vient souvent trop tard. Mon père était trop petit à cette époque-là. Il avait 9 ans. Il était à l'internat pendant la guerre. Donc, il a appris ça par bribes et d'une manière très diffuse, avec des choses qu'on ne lui a pas racontées comme ça, mais qu'il a appris d'une manière... non intentionnel, dans des bruits de couloir ou des choses comme ça. Il avait vaguement entendu parler de cette histoire. Moi, je l'ai su, non, plutôt quand j'étais ado, que je m'intéressais un peu à ma famille. Et puis, c'est quand on s'intéresse un peu, les années fin de collège, quand on a 15-16 ans, etc., on s'intéresse un peu à ça. On se construit aussi une identité par sa famille, par savoir un peu d'où on vient. Pour moi, la Bretagne et puis cette famille, voilà, c'est loin. Parce que je suis né en banlieue parisienne. Et voilà, comme pour mon père, d'ailleurs, l'Italie, c'était très loin. Comme pour ma grand-mère aussi, elle est née en Bretagne aussi. Donc c'est vraiment la quatrième génération des arrière-grands-parents. Voilà, donc on a quelques bribes d'histoire. Et après, oui, je me sers quelquefois de cette histoire à titre d'exemple, et je la place comme ça, comme prof d'histoire en lycée. Et ça m'arrive de le placer, ou alors si j'aborde ce sujet, je le place ça comme une histoire un peu vécue, en disant, moi, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a été tendu par les résistants, etc. On aborde ça parce que, bon, maintenant c'est évoqué, ça apparaît quelquefois dans des manuels d'histoire aussi. Ça a été un peu intégré, l'histoire de l'épuration. Et donc ça marque toujours les élèves, donc je me sers souvent d'histoires personnelles, des petites histoires familiales et personnelles. Là, les élèves s'arrêtent, écoutent. C'est quelque chose qui les marque un peu plus que si on leur monte même une photo ou si on leur fait ouvrir un manuel à telle ou telle page. Bon, ça me permet d'équilibrer forcément cette histoire, puisqu'on a encore une histoire et de plus en plus des héros de la résistance. C'est en gros, moi sur le programme, c'est Jean Moulin ou le Veldiv. Il y a très peu d'histoires de la collaboration pour contrebalancer. Il y a Vichy comme ça, Pétain, donc il y a l'État d'un côté, et puis il y a des résistants héros de l'autre. Je pense qu'en plus, sur cet aspect-là de l'enseignement de l'histoire, encore aujourd'hui au lycée, dans les programmes, c'est resté encore très caricatural, et donc montrer qu'il y a dans la résistance tout ce qu'a pu faire aussi la résistance jusqu'au bout, etc. Voilà, c'est faire le contrepoint là, et donner un équilibre un peu sur une histoire de modèle, voilà, c'est important. Et puis le côté ignoble des grands collaborateurs qu'on a laissé après, ça dérangeait personne, de les maintenir au pouvoir dans toutes les instances de justice, de police, d'État, etc. quoi. À bas la balle, à la cumbetto,
y mouilles en el nabo de blanc. À bas
Donc c'était Gaël qui effectivement, ce qu'on peut retenir un peu de cet entretien, c'est que ça a été un peu une histoire à la fois non dite et en même temps vécue. C'est-à-dire qu'on ne lui en a pas forcément parlé, et pourtant il était à la rencontre de ces résistants qui ont violenté sa tante, sa grande-tante, et que c'est elle qui a dû bouger, qui est partie pour habiter le village du dessus. Donc ça, c'est assez étonnant aussi, mais bon. En tout cas, voilà, c'était quelque chose qui était important de dire que les gens, qu'ont fait ces femmes une fois qu'il leur est arrivé ce qui est arrivé, en tout cas à la grande-tante, qu'ont fait ces femmes ont dû essayer de refaire leur vie. Pour la plupart, elles ne sont pas vraiment parties de la région, quoi. Donc cet entretien, il est intéressant aussi parce qu'il parle aussi de la transmission, de ce qu'il en fait, lui. Il est prof d'histoire, donc. Et selon les manuels, effectivement, on n'apporte pas forcément la collaboration. Quand on aborde la collaboration, on parle de Pétain, Laval, Vichy. Mais on ne raconte pas ce que c'est l'administration. La collaboration, c'est l'administration française entre 1939-1945, pendant l'occupation, c'est le seul employeur du milieu administratif, c'est les nazis. C'est personne d'autre. C'est les nazis. Et l'État français, son employeur, c'est les nazis. Donc quand on va essayer d'avoir un logement social et on va au guichet de l'OPHLM, on est face à quelqu'un qui travaille pour les nazis. Quand on va au secrétariat de la mairie, on est face à quelqu'un qui travaille pour les nazis. Donc c'est toute l'administration de bas en haut qui travaille pour les nazis. Donc la question qu'on se pose, nous, c'est ces femmes qui ont été tendues, lorsqu'on dit qu'elles ont collaboré avec les nazis, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle de ces femmes qui travaillent dans les administrations ? Est-ce qu'on parle de ces femmes qui faisaient le ménage pour la mairie ? Est-ce qu'on parle, voilà, des gens de maison ? Est-ce qu'on, on sait pas vraiment de quoi on parle. Et donc du coup, c'est ça qu'on en, c'est ce dont on avait aussi envie de parler, c'est qui sont ces femmes.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la plupart des femmes qui ont été punies ou tondues, c'est des femmes qui étaient seules, donc pendant la guerre, soit veuve, soit non mariée, soit avec un mari parti à la guerre, et qu'elles se sont retrouvées dans une situation économique compliquée, à devoir travailler. Et comme tu l'as dit, le seul employeur, quasiment, c'était l'occupant, donc les nazis. Que la plupart des boulots qu'elles ont exercés, c'est femmes de ménage, faire à manger, faire la vaisselle. Il y en a certaines qui ont été traductrices parce qu'elles avaient un certificat d'études, enfin, qui en tout cas, un niveau d'études suffisant ou qu'elles parlaient en tout cas l'allemand. Et que, donc, elles se sont retrouvées en fait seules à devoir gérer une situation qui a été compliquée. Et que ça, finalement, ça en ressort pas trop. Enfin, en tout cas, dans cette punition qui leur a été infligée, elles ont trahi leur pays. Mais sauf qu'en fait, comme tu le disais, collaborer avec l'ennemi, en fait, la collaboration, elle pouvait être partout. Et justement, ça a été cette punition. Elle a été appliquée aux femmes, très peu aux hommes, finalement. Parce qu'à cette époque-là, les femmes, je dis à cette époque-là, mais c'est encore un peu le cas aujourd'hui, elles sont un peu incapables. Donc, il faut savoir, juste encore pour des dates, que c'est en février 38 qu'il y a une loi qui met fin à l'incapacité civile de la femme mariée. C'est-à-dire qu'avant, c'est régi encore par le code Napoléon, qui donc leur imposait le devoir d'obéissance envers leur mari. Donc à partir de février 38, elles peuvent avoir une carte d'identité, ouvrir un compte, mais il faudra encore attendre ces 65 pour qu'elles puissent travailler sans l'accord de leur mari. Pendant cette guerre, les femmes se sont retrouvées seules et ont été peut-être plus indépendantes que ce qu'elles ne l'étaient avant, et elles ont payé en fait cette indépendance qui en fait n'était pas acceptée, et voire ne l'est toujours pas forcément, enfin en tout cas c'est encore pas... Et d'ailleurs le droit de vote des femmes c'est en avril 44, donc c'est juste avant la libération.
Pour rebondir sur ces femmes donc, qui étaient indépendantes, Il y a le témoignage d'un... On a un autre témoignage. Cette fois, c'est aussi c'est le petit-fils qui parle de sa grand-mère et qui va nous raconter son histoire et ce qui lui est arrivé. Bon, elle, je vous préviens d'avance, comme ça, il n'y aura pas de suspense. Elle a été en procès, mais elle n'a pas été, elle a pas été tondue. Vous verrez... pourquoi ? On ne comprend pas forcément exactement pourquoi, mais bon, on verra. Donc je vous laisse écouter.
Germaine, une femme qui a vécu un peu ces trucs de répression populaire et dirigée contre les femmes à la sortie de la guerre. Une femme fille de paysanne et de paysan et qui a été élevée par ses grands-parents parce que sa mère est morte en couche, qui a vécu aussi ce truc du mariage arrangé, du coup, pour des questions de terre, etc., avec un type qu'elle aimait pas, avec qui elle a eu un enfant. Et il s'est trouvé que voilà, pendant la guerre, elle a demandé le divorce alors que lui, il était parti en travaux forcés en Allemagne ou je sais pas quoi. Elle a décidé de divorcer pendant la guerre de ce type là et c'était déjà un truc un peu dur à affronter en 41, de se séparer de son mari qui était justement rangé du côté de ceux qui travaillaient pour la France ou je sais pas quoi, comme. Et il se trouve que pendant l'occupation, du coup, ma grand-mère, elle a vécu, où elle a grandi, où elle est née, dans un bled sur la côte en Normandie. Et c'est un point qui est très surveillé par les Allemands, qui est occupé, c'est la mer qui est en face de l'Angleterre. Du coup, occupation allemande, des jeunes soldats allemands qui sont là. Et ma grand-mère, pendant la guerre, a bossé dans une ferme comme ouvrière agricole, qui était... je sais pas comment on dit, sous tutelle ou chapeauté par les Allemands. Il se trouve que du coup, elle a rencontré un Allemand pendant cette période-là. Ils sont devenus amants, c'était une notoriété un peu publique dans le bled, quoi. Du coup, femme divorcée, qui couche avec l'ennemi, l'occupant. Enfin, c'était un truc qui faisait déjà un peu jaser. Du coup, un truc assumé. C'est une personne, justement, je crois, qui a toujours fait un peu ce qu'elle voulait. Finalement, elle avait cette indépendance, cette patate-là, là, pour justement divorcer, pour tomber amoureux d'un Allemand et pas en avoir honte. Bah, il se trouve que 44, 6 juin, bah, patatras, quoi. Enfin, débarquement, ça se passe dans ce bled-là en particulier. Les Allemands sont chassés, ce type-là disparaît... apparemment, elle n'a jamais eu de contact après-guerre avec ce type-là. Je crois qu'elle ne savait même pas s'il était mort ou vivant. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à ce moment-là, il y a mon grand-père qui arrive, justement, avec ses forces alliées, c'était écossais. Et ma grand-mère rencontre ce type-là et il tombe amoureux. Et elle se met en relation avec cet écossais. Et à la sortie de la guerre, 45, il y a les 45-46, il y a les espèces de... procès, là, du coup, dont moi je connais assez peu de choses, en fait, je me rends compte, même si ça me touche un peu directement, de ces femmes qui auraient collaboré avec l'ennemi, encore pire, qui auraient été jusqu'à vivre des aventures d'amour, et j'ai l'impression qu'il y a même un truc de sexualité là-dedans qui est vraiment trash. Je sais pas trop comment parler de ça, en vrai. Voilà, du coup, elle s'est retrouvée en procès. Au sorti de la guerre, parce que justement, voilà, il y avait besoin de frapper sur quelqu'un. À la sortie de la guerre, elle avait repris du coup la ferme de ses grands-parents. Au sorti de divorce avec ce type-là, qui était justement lui intéressé par ses terres, et avec tout un tas d'autres paysans des alentours, là, il y a vraiment des gens. Enfin, mon père me disait jusqu'à il y a pas longtemps, ils étaient encore vivants et ils savaient très bien qui c'était, ces personnes-là qui avaient essayé de l'enfoncer, vraiment de la mettre. Je pense des histoires de patriotes de la dernière heure ou je sais pas quoi. Les fachos du moment qui se réveillaient pour accabler des personnes qui avaient vécu autrement la guerre ou différemment la guerre. Ils l'ont. je crois, dénoncer et porter en procès. Et, enfin, ça, c'est quelque chose que, en vrai, j'ai appris hier. Du coup, c'est un truc dont j'aurais aimé pouvoir parler un peu plus précisément, comment ça s'est passé, justement, ce déroulé de procès. Elle a dû aller au tribunal pour se défendre de, justement, avoir pactisé avec l'ennemi. J'en sais rien, comment... C'est quoi les termes du truc. Mais en gros, il y avait un truc de vouloir la tondre aussi en place publique, etc. Et il y avait ce truc aussi au niveau de ces terres agricoles qui étaient intéressantes pour beaucoup de fermiers. Du coup, il y avait plein de gens qui souhaitaient qu'elle soit punie et dépossédée de ce qu'elle avait, quoi. C'est assez dur à capter comment elle s'est défendue. Apparemment, du coup, elle s'est faite relaxée. Elle a réussi à garder ses terres, elle a réussi à pas se faire tondre. Il semblerait qu'il y ait eu justement au niveau du bled un peu des gens qui s'étaient montés en front, en ligue un peu contre elle, et qu'elle ait eu du soutien de la part d'autres personnes. C'est assez difficile à capter. Voilà, mon père m'a dit que sans doute elle avait été fort soutenue par une partie de sa famille, en tout cas par son grand-père, qui était assez sûr, qui était plutôt pas très républicain. Et du coup, ouais, j'ai du mal à saisir le pourquoi elle a réussi à s'en sortir.
J'imagine qu'en Normandie, là où tous les ans, etc., il y a les commémorations du débarquement, etc., ça va être une ambiance assez lourde.
Là, c'est clair qu'il y a carrément l'étalage des gentils et des méchants, quoi. Et du coup, l'armée nazie, enfin, tout ce que représentent les soldats allemands, quoi, en termes de l'armée nazie, machin, tout ça, vachement symbolisé comme le mal ou je sais pas quoi. Et puis de l'autre côté, tout ce qui représente le corps guerrier allié, libérateur ou je sais pas quoi, c'est hyper mis comme.
Et les résistants.
Ouais, les résistants, mais même pas trop, en fait. L'histoire qui se raconte à cet endroit-là, c'est surtout l'histoire de celles et ceux, ou surtout ceux, mais qui sont arrivés depuis l'Angleterre, ces fameux jours du 6 juin, 7 juin, 9 juin, jusqu'au 10 ou 15, ou je sais pas quoi, enfin jusqu'à la reprise de la France. Et du coup, cette histoire, c'est une espèce d'histoire glorieuse, justement des gentils sur les méchants. On fête la liberté là-bas, tous les ans, il y a une fête on fête la liberté. Avec des gens en armes et tout ça. Et du coup, je crois pas que ça soit une histoire honteuse de la famille. Vraiment, comme je disais, plutôt, c'est une histoire que j'ai appris assez tard. Enfin, justement, ça soulève tous ces trucs-là de comment les histoires familiales là sur des sujets comme ça, notamment la sexualité des femmes, elles sont pas ou peu racontées. Moi, j'ai pu en parler avec mon père parce que je sais pas, on a cette relation qui nous permet nous dire des trucs qui touchent à ces sujets-là. Mais je vois avec ma grand-mère, c'était un truc... même si elle était très indépendante, etc., et qu'elle avait honte de rien, de tout ce qu'elle a fait, je pense qu'elle l'a fait un peu droite dans ses bottes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'elle... Elle m'a pas raconté cette histoire-là. C'est des bouts par ma tante... Des bouts par ma tante qui, elle aussi, a vécu un peu des trucs... c'était une femme assez libre, je pense. Et qui, du coup, elle m'a rapporté des bouts de l'histoire de sa mère. C'était pas tu comme quelque chose de honteux, c'était juste un truc pas très su, pas très connu, mais plutôt un truc un peu de fierté quand même. On peut être en dehors de justement. Des relations guerrières que certains humains organisent et avoir des vraies relations en temps de guerre. Enfin, les personnes avec qui j'ai pu échanger autour de ce truc-là, il y avait un truc un peu justement à cette fierté. Mais j'imagine que pour ma grand-mère, c'était pas un truc. Facile à parler, facile à évoquer, notamment depuis sa position de femme, je pense, de parler de sa vie sexuelle, son amour, sa vie amoureuse, etc. Et aussi sur justement elle, juste peut-être, je ne sais pas ce qu'elle a vécu intérieurement, si elle a vécu des formes de culpabilité de ce truc-là, ou si plutôt elle en a... Elle a complètement assumé jusqu'au bout cette histoire d'amour, quoi. Ça, je ne sais pas. C'est un morceau qui me manque, que j'aurais aimé creuser. S'assumer en femme... je sais pas, elle aimait bien dire que c'est. Je me rappelle de ça, elle disait qu'elle était. C'était une femme de son temps, quoi. Quand on parlait de questions qui approchaient des sujets féministes ou je sais pas quoi, elle avait un truc de. C'était marrant cette répartie qu'elle avait, là. En fait, je suis une femme de mon temps, quoi. En fait, en vrai, elle avait l'impression qu'en tout cas. Elle avait eu. Elle, l'opportunité de aussi claquer déjà la porte à plein de. À plein de trucs imposés, là.
C'était en direct d'une petite cabane en haut de la montagne.
Ouais.
Pour vous. Merci beaucoup.
De rien.
Bah voilà. Donc, du coup, moi, je trouvais ce témoignage assez intéressant parce que. Eh ben parce que ça parle de quelqu'un qui vit la guerre différemment entre un camp et l'autre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que son petit-fils analyse l'histoire d'amour de sa grand-mère. Après, peut-être qu'elle, elle avait autre chose à dire. En tout cas, comment la mémoire s'est transmise et ce qui a été fait de cette mémoire, c'est intéressant. C'est que finalement... le camp des gentils et des méchants, ben on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que le mythe national de la grande résistance voudrait nous le faire croire. Y a autre chose que je trouve intéressant dans ce témoignage, c'est comment elle était perçue par son fils et sa fille. Puisque du coup, c'est surtout à travers leur regard que l'histoire est transmise au petit-fils. Et c'est donc la grand-mère comme quelqu'un de très indépendant. Et c'est surtout ça qui était finalement reproché à ces femmes. Et c'est pour ça qu'elles ont eu droit à une punition spécifique. Parce que... finalement, les hommes qui ont eu aussi des contacts avec les Allemands n'ont pas été tondus. Les femmes ont été tondues. Et ces femmes-là qui ont été tondues, donc, on l'a déjà dit, hein, certaines parce qu'elles ont eu des histoires d'amour avec des Allemands, d'autres parce qu'elles ont couché avec des Allemands, d'autres parce qu'elles ont travaillé pour des Allemands, d'autres parce qu'elles ont collaboré pour des Allemands ou même dénoncé des gens. Toutes ces femmes-là, qui ont été tendues, le message, il était clair, c'est votre corps ne vous appartient pas. Votre corps, le corps des femmes, appartient à l'État-nation et au contrôle masculin. En tout cas, moi, c'est comme ça que maintenant j'analyse cet épisode de l'histoire, puisque... la plupart des femmes qui ont été tendues étaient des femmes qui se démerdaient, essayaient de se démerder, qui étaient des femmes indépendantes. Et toute la propagande qu'il y a pu avoir sous Vichy, comme quoi la femme, il fallait qu'elle reste à la maison, que pendant la Seconde Guerre mondiale, là, les femmes commencent à finalement participer à l'économie en travaillant, et bien là, non. Retour au foyer et retour au contrôle du mari et oui. Au contrôle de la famille.
Se faire remettre à sa place.
Et bah, je sais pas, on pourrait peut-être mettre une petite musique, non? Qu'est-ce que vous en pensez là-bas en technique?
Oui, on va. Oui, on va passer. On va passer la chanson de Cria Cuervos, qui est un groupe de punk qui est un groupe de punk féminin, de copines, dont Géraldine. Et la chanson s'appelle « Ce n'est pas une chanson d'amour ».
C'est parti, du bon.
C'était Cria Cuervos, ce n'est pas une chanson d'amour.
Et ben du coup, je sais pas moi, peut-être on pourrait peut-être parler de cette espèce de d'attaque, mais de baisse. De la virilité, c'est comme la... Non, je vais faire des mauvaises blagues, donc j'arrête de déraper tout de suite. Donc, c'est la guerre, les Français hommes, donc ceux qui sont censés se battre pour protéger la nation, ont donc perdu la guerre, et donc, souvent, ce qui se passe dans ces moments post-guerre, c'est qu'il y a une crise de la virilité, surtout quand on est du côté des perdants. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut un peu reconstruire cette virilité perdue. Et le rite, la mise en spectacle de ce moment où des femmes sont tondues participe en tout cas à revaloriser le masculin.
Oui, d'ailleurs, dans la mise en scène, c'était des femmes tondues, souvent assises, entourées d'hommes, debout, baladées dans la rue, entourées d'hommes. Et toute cette mise en scène, elle est assez parlante. Et la femme s'est fait remettre à sa place, et c'est une réaffirmation de ce que tu viens de dire par rapport à la virilité perdu pendant cette guerre.
En fait, la tonde, c'est un peu là pour montrer que la sexualité des femmes en tant que groupe, elle appartient aux hommes en tant que groupe. Et voilà. Ça a été aussi un moment de vengeance, puisque donc on a beaucoup pensé que c'était les moments où les femmes étaient tondues, ça s'est surtout passé après la libération, alors que ça a vraiment perduré dans le temps. C'est pas juste un pétage de câble 3 jours après la libération et après ça s'arrête, non, c'est vraiment une planification. Et ça s'est aussi... les comités locaux ont donc beaucoup vengé aussi tous ces hommes-là qui étaient partis donc, à la guerre et qui revenaient soit en tant que prisonniers, soit qui revenaient du front. Et donc du coup, les comités locaux vengeaient le fait qu'ils étaient trahis par leurs femmes. Et donc là, on voit bien toute l'imbrication qu'il peut y avoir entre la nation et la famille, puisque en fait, l'humiliation qu'ont vécu ces hommes, donc, qui auraient été cucus, donc, passe dans le corps des femmes. Et c'est elles qui vont payer dans leur corps et dans leur chair l'humiliation de la nation qui a perdu.
Oui, ça passe d'un adultère privé à finalement presque un adultère national.
Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui est dit sur le virilisme et la quête de virilisme, juste du fait que suite à ça, enfin en tout cas, il y a un mot qui est utilisé souvent pour parler de cette collaboration féminine et sexuée, qui est la collaboration horizontale. Alors, ce n'est pas un terme qu'on utilise ou sentimental. C'est collaboration horizontale ou collaboration sentimentale et qui est spécifiquement dédiée aux femmes qui ont eu des relations avec des Allemands nazis ou des nazis, voilà, qui est spécifiquement liée à ça, quoi. Et alors, ce terme, il est assez intéressant parce qu'il n'y a pas son équivalent pour les hommes. C'est un terme qui est proprement affecté à la condition d'être femme, quoi, d'être une femme. Et c'est assez aussi intéressant parce que c'est un mot qui a été utilisé par les hommes pour raconter ce que les femmes faisaient avec les nazis et pour leur dire bah, ce que vous avez fait, en tout cas, c'est de la collaboration, et d'évaluer ça au même titre qu'une collaboration institutionnelle et qui organise la régie de la société, quoi. Donc, en tout cas, voilà, c'est mettre au même niveau la collaboration que certains grands collaborateurs ont eu avec les nazis, mettre ces femmes-là au même niveau et à ce même niveau-là, et leur attribuer ce mot-là. Mais surtout, ce qui est assez étrange, et voire même cynique, c'est que les gars, ils vont appeler ça collaboration horizontale pour se garder encore et une fois, encore et toujours, la verticalité, la dignité de la verticalité. C'est que eux, même dans la collaboration, bah, ils sont toujours debout. Alors qu'une nana, bah, elle se couche dans la collaboration, ce qui est encore, comme s'il fallait avoir des espèces de graduations. Bah, donc c'est assez, on peut dire comique, hein, on peut dire ça, peut-être cynique, j'en sais rien, mais en tout cas, ça déconstruit assez bien cette histoire-là. À ce propos, justement, sur comment les femmes ont été dénoncées et traitées. Alors, sur les photos qu'on connaît, on voit aussi dans la foule beaucoup de femmes qui entourent ou qui même qui entourent les femmes qui sont rasées ou pendant les vindictes populaires. Sur les photos, on voit beaucoup de femmes autour. Et on a retrouvé le témoignage d'une femme qui, elle, était dans les commissions d'épuration à Marseille. Qui elle raconte comment elle a été choquée de la décision qui a été prise par la commission de lyncher cette femme sur la place publique, ou la femme, une femme sur la place publique, de la raser, de la mettre à nu. La femme qui va témoigner, qui s'appelle, alors c'est bizarre, Madame Romain Roland, du nom de son mari, mais voilà, c'est comme ça qu'on la connaît. Et ce témoignage, vous pouvez le retrouver dans un documentaire. C'est l'extrait d'une émission d'histoire sociale qui s'appelle Passé présent, qui est diffusée sur Canal Web. Et le titre de cette émission s'appelle « Les femmes tondues à la libération ». Donc nous allons écouter Madame Romain Roland.
Monsieur et Madame Remacle, vous aviez des responsabilités dans la résistance. Vous vous souvenez de la libération lorsqu'on a tondu ces femmes?
Oh là là, vous me posez un problème douloureux. Parce que j'ai mal accepté ces femmes tondues. Parce que, hélas, j'étais dans une commission d'épuration. Et cette commission d'épuration, on ne m'emmenait que le menu fretin. Donc, nous sommes au coin d'une rue. Et c'est le quartier d'Andoum. Et là, il y a une montée, et nous voyons une femme toute nue, tondue, et la foule qui était autour d'elle, qui qu'il insultait. On insultait, on lui crachait dessus. Nous avons, mon époux était avec moi, et là, alors à ce moment-là, nous sommes allés, nous avons dit, mais ne nous permettons pas une chose pareille. De quel droit faites-vous ça à cette femme? Alors tout le monde m'insultait, puis finalement, comme la gendarmerie était à côté, j'ai pu récupérer cette femme avec mon époux, et nous l'avons emmenée à la gendarmerie. Je n'ai pas réalisé qu'on ait pu tout de suite, après avoir passé tout ce qu'on avait passé, se jeter sur les femmes et les tondre, alors qu'il y avait tellement de choses à faire.
Qui est un groupe de La Fraction, donc, qui est un groupe
de punk,
de Paris. Punk par, Paris.
De Paris.
Et Paris banlieue. Et voilà, et la chanson s'appelle Allez, prends-moi dans tes bras. Donc là, on a dit beaucoup de choses et on est en train de se demander, mais.
De qu'est-ce qu'on va parler maintenant? On est un peu dans la merde. Non, en fait, il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas assez creusé.
En tout cas, sur lequel on voudrait revenir.
Voilà. C'est la cohésion nationale, parce que... Donc, c'est la guerre, c'est le bordel. Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu la libération. Il faut un peu recréer un sentiment de cohésion... national. Et pour cela, bah, en règle générale, hein, c'est un peu, on connaît un peu la chanson. Hein, souvent, malheureusement, chez l'humain, souvent pour qu'un groupe existe, et ben, il faut désigner des ennemis de ce groupe.
Ou en tout cas des boucs émissaires. On a le sentiment que dans les événements, après la collaboration, il faut s'imaginer un pays... qui à la fois doit faire face à quelque chose qui va pas forcément accepter, à savoir la collaboration, mais parce que c'est quelque chose qui est, enfin bref, c'est un peu la... Enfin, je peux dire ça, la queue entre les jambes ou pas? Non, je peux pas.
Si, mais on... si, si.
Bah voilà, bah...
Un peu honteux, quoi.
Ils se sont retrouvés un peu honteux de ce qui s'est passé. Et du coup, il fallait quand même... et comme, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ça concerne en fait beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Et, puisque c'est quand même dans la normalité de l'époque que d'être... contrairement à ce que nous racontent les Louis de Funès et puis les films qu'on a pu voir ou qu'on peut voir encore aujourd'hui sur la résistance, on a l'impression que tout le monde était résistant en 1943, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et du coup, à la libération, les gens se retrouvent avec ce passé un peu lourd. Et donc, il faut se reconstruire. Et les commissions d'épuration, elles ont été mises en place et désignées par les groupes de résistants FFI, donc qui sont les...
Forces françaises de l'intérieur.
Voilà, merci. Ouais.
C'est les résistants de droite, c'est ça?
Petit Robert. Ouais, voilà. Enfin, résistants de droite. Bon, en tout cas, c'est eux qui étaient du côté de De Gaulle, quoi. Contrairement aux FTP, qui sont frontières partisans, qui étaient plutôt communistes.
C'est ceux qui sont ressortis, finalement... vainqueurs et dont on parle maintenant, qui ressortent, quoi.
Tout à fait.
C'est les grands hommes avec un grand H.
Oui, enfin, oui. Je ne sais pas ce qu'il y a de grand, mais... du coup, ces commissions, quand elles se sont montées avec des gens qui disaient ne pas avoir participé à la collaboration, en tout cas qu'ils ne l'étaient pas, vu qu'ils étaient des résistants. Mais ils ont fait quand même appel à la population pour dire bah, « dénoncez-nous ». Déjà, ils en connaissaient pas mal, des gens qui étaient collaborateurs et collaboratrices, mais en tout cas collaborateurs. Et donc du coup, ils se sont aidés de la population pour dire « dites-nous qui d'entre vous là, a collaboré ». Et au final, on s'est assez vite retrouvés avec beaucoup de gens. Et ça, le choix de l'événement spectaculaire qui a été de raser la tête des femmes sur la place publique, c'est d'une certaine manière pour balayer tout le reste aussi, pour dire regardez cet événement spectaculaire sur l'estrade de la place de la mairie, pour éviter de parler aussi de ceux et qui, ou en tout cas...
Par exemple Renault, tu veux dire
Renault, les voitures.
Les voitures.
Ouais, comme Renault, comme...
tous ces patrons,
entre autres,
plein de thunes, mais que eux, ils n'ont pas été inquiétés.
Après, c'est une autre,
c'est un autre débat. Ouais. Non, mais je sens.
Non, non, mais non, pas mais du bon, tout.
C'est
non,
un peu énervant quand même quand on regarde cette histoire et qu'on voit qui c'est qui est puni à la fin.
Oui, c'est sûr.
Mais bon, là, c'est pas les patrons, c'est pas la cohésion nationale.
Et donc, pour essayer de reconstruire cette société qui est quand même dans un gros boxon. C'est vraiment facile enfin d'écraser et de réunir les gens autour d'un événement comme ça qui fait que ça renforce les liens de cracher sur la gueule de quelqu'un en particulier et là en l'occurrence les femmes quoi.
Eh ben oui puisque du coup ce qui est défini à ce moment-là c'est qui est digne d'être citoyen et qui ne l'est pas.
C'est l'enjeu.
En tout cas, c'est l'enjeu.
C'est l'enjeu. Alors peut-être que on passerait
un petit morceau de musique. C'est aussi un groupe punk. Aujourd'hui, on est ambiance punk. Et non, c'est pas des punks. C'est des skins. C'est pas pareil.
Alors, si qui ont lynché.
Si j'entends punk, qui me tue. Et c'est le groupe qui s'appelle Traître et le morceau, il s'appelle Un pays à détruire.
We'll be right back. Vous êtes toujours sur l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire.
Apparemment, il semblerait que ce qu'on dit pourrait être polémique, puisque c'est en tout cas une certaine façon de voir ce moment de l'histoire. Effectivement, nous, on n'est pas des historiennes, hein. Mais par contre, quand même, on s'est un peu renseigné pour essayer de comprendre qu'est-ce que pouvait vouloir dire ce moment où pendant 3 ans, des femmes ont été tondues. Qu'est-ce que ça nous évoquait ? Qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion pour comprendre un peu ce qui nous entoure. Et pour ça, on s'est quand même aidé de travaux de gens qui ont fait des recherches, qui sont allés dans des archives, qui ont été fouillés, les archives des différentes gendarmeries, qui ont un historien qui s'appelle Fabrice Virgili, qui a beaucoup travaillé sur la guerre et le genre dans tous ses travaux de recherche. Et lui, il a aussi travaillé sur la France virile, des femmes tondues à la libération. Et du coup, c'est un bouquin qui fait à peu près 300 pages, qui est un peu complexe à lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Et surtout, c'est très compliqué à tirer des conclusions, à faire une synthèse de ce qui s'est passé. Puisque comme il n'y avait pas d'État centralisateur, il s'est passé plein de comment ces tontes ont été organisées. Ça a été très, très différent selon les endroits. Du coup, de faire des synthèses de tout ça, c'était compliqué. Mais quand même, il l'a fait. Et du coup, il recense un peu pas mal de ces tontes. Et surtout, lui, les conclusions qu'il tire, c'est qu'est-ce que ces tontes signifient ? Pourquoi il y a eu cette punition spécifique sur les femmes ? Et en quoi ces femmes-là, questionnées, mettaient à mal la virilité des hommes, qui étaient déjà elles-mêmes mises à mal par la guerre qui a été perdue.
Et que la question, là, c'est pas de savoir, en fait, si les femmes ont collaboré ou pas. La question, c'est qu'il y a eu une punition d'exception et un traitement d'exception que les hommes n'ont pas eu. Et à partir de là, on peut nous se questionner sur ce que ça veut dire et ce que ça implique, ce que ça dit d'une société et ce que ça dit pour le présent, pour le passé et surtout son avenir et sur ce quoi elle se construit. Donc effectivement, ce n'est pas le sujet de savoir si les femmes ont collaboré ou pas. Le sujet, c'est qu'il y a eu une justice d'exception qu'on a voulu nous faire croire populaire et spontanée, alors qu'elle a été organisée et certainement aussi préméditée. Peut-être, ça c'est encore plus flou, mais en tout cas on peut peut-être le supposer, juste du fait qu'il y a eu quand même plus de 20 000 femmes dans toute la France qui ont été tondues, qui ont été rasées, qui ont subi ça. Il y a eu 450 femmes qui ont été exécutées. Ce sont des collaboratrices, ce sont des collaboratrices, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en a fait, à quoi ça a servi. Et voilà, c'est de questionner l'histoire. Le thème de notre émission. Alors, peut-être que on peut passer, alors pour clore ce débat de savoir, passer une chanson, un texte qui a été écrit par Boris Vian, qui s'appelle, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Le Déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Et juste pour préciser, il y a une version de la chanson où il dit, et vous pourrez dire à je ne sais pas qui, que je suis armée et que je sais tirer. Voilà, mais cette version-là, elle a été censurée. Et voilà, on avait envie de passer cette chanson de Boris Vian parce que, bon, il y a des guerres aussi où tout simplement, ben, on n'a pas envie de choisir son camp.
Non, non, c'est surtout que c'est antimilitarisme.
Voilà.
Donc, voilà, l'émission est finie. Nous avons juste quelques petites ressources sur lesquelles on s'est basé, qu'on voulait partager avec vous. Et notamment une superbe émission radio sur le site Radio Rageuse de Martine, Lilith et les autres sur les femmes tordues, qu'on vous invite à aller voir. Qui est une émission plutôt qui revient sur les événements historiques, mais qui est très complète et qui nous a beaucoup aidés. Il y a l'émission de Mermet dans Là-bas si j'y suis. Alors, pour la retrouver, il faut que vous tapiez 2 juin 2004 dans votre moteur de recherche, plus Là-bas si j'y suis. Donc, vous retomberez sur l'émission. Il y a un documentaire vidéo ou un film de Kaplan qui s'appelle « Les femmes tondues en 1944 ». Et l'émission dont est tiré l'extrait de la femme qu'on entend à Marseille, quoi, qui s'appelle « Passé-présent », l'émission, et dont le sous-titre c'est « Les femmes tondues à la libération », qui a été diffusée le 24 janvier 2001 sur Canal Web.
Et sinon, pour revenir à l'actualité, puisque là, l'émission arrive à sa fin. On avait envie de parler vite fait du rendez-vous de samedi qui a lieu à 13h à la Plaine pour
à 15h au métro Notre-Dame-du-Mont, pardon.
Voilà, à 15h au métro Notre-Dame-du-Mont. Donc c'est les 1 an, cela fait suite aux 1 an des immeubles qui se sont effondrés. Et d'autant que l'histoire, hein, elle est toujours réécrite. En tout cas, on voit bien avec cette histoire des immeubles effondrés comment la mairie elle a réécrit l'histoire et comment elle continue à la réécrire. Et que c'est important d'être là samedi pour dire que en fait on a une autre vision de l'histoire et de ce qui s'est passé.
Voilà, merci beaucoup. Et on voudrait aussi remercier Karine pour son aide précieuse et nous avoir donné l'occasion de faire tout ce qu'on fait là. Merci. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique,
ouais,
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah,
tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
la
alors...
la la.